Paita, la cantine de l'école James Paddon, victime d'un incendie, mais elle reste ouverte et les cours sont assurés. Une entreprise brûlée lors des émeutes relance son activité et s'agrandit. Un signal positif, Christopher Gigès s'est rendu ce matin chez Graphoprint. Beaucoup de monde depuis 7h ce matin sur la place des Cocotiers pour les jeudis du centre-ville spécial Commune du Nord. Il est ouvert jusqu'à 19h. En métropole, les locaux du RN perquisitionnés par la brigade financière, Jordan Bardella dénonce un acharnement judiciaire sans précédent sous la 5e République. En sport, la fin des mini-jeux du Pacifique, c'est l'heure des bilans et malgré une délégation réduite, les Calédoniens ont très bien tiré leur épingle du jeu. En football, le PSG est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs en battant le Real 4-0. Sur le Tour de France, Tadej Pogacar a pris le pouvoir à l'issue de la 5e étape, un contre-la-montre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal et dans les jeudis de l'économie qui suivront directement cette édition. Nous nous intéresserons au réseau de transport en commun du Grand Nouméa. Où en est sa reconstruction? Quels sont ses défis? Nous en parlerons avec Serge Castello, qui est directeur de la sûreté du groupe Transdev, spécialisé dans le secteur des mobilités. Marie-Emmanuelle Huyot, qui est la directrice économie mixte et assistance technique du groupe. Naya Wateou, la présidente du SMTU. Clément Simutoga, le directeur transport chez CarSud. Et Francisco Sionnet, responsable exploitation chez CarSud. Des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin de ce journal. L'école James Paddon à Païta a donc été victime des flammes hier soir. Un feu de poubelle s'est déclenché à proximité de l'établissement scolaire avant de se propager à la cantine. 137 enfants au moins vont voir leurs habitudes bouleversées, Charlotte Coulson.
C'est une voisine vigilante qui a alerté les pompiers après avoir aperçu de grandes flammes se dégager de la cantine. Les soldats du feu sont arrivés sur les lieux aux alentours de 19h30 et ont réussi à maîtriser les flammes un peu plus tard. Malheureusement, l'incendie avait déjà consumé une partie de la cantine et de son équipement. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 5 millions de francs, mais l'impact est bien plus grave, selon la maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo.
Alors je réagis de deux façons. La tristesse d'abord, parce que j'aime pas du tout qu'on s'attaque à des lieux comme les écoles, parce que ça touche des enfants, premièrement. Et puis deuxièmement, j'ai un vrai sentiment de colère, parce qu'on n'arrive pas à avancer, en fait. Quand on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière, et ça devient insupportable. Après, on va me dire, et la sécurisation des écoles? Je devance votre question parce que la sécurisation des écoles, elle est déjà faite via les barreaux qu'on met à chaque fenêtre, les grilles. On fait déjà de nos écoles de vraies prisons. Là, on est en chantier pour les protéger encore mieux. Au-delà de ça, je vois pas du tout ce qu'on pourra faire de plus. Je cherche, voilà.
Seule la cantine a été touchée. L'école reste donc ouverte et les cours sont assurés normalement. Malgré tout, les demi-pensionnaires, au nombre de 137, vont devoir déjeuner à l'école maternelle Les Palmiers, au moins jusqu'en août, comme l'explique le chef de service de la vie scolaire de la mairie de Païta, Lionel Achard.
Les enfants demi-pensionnaires de l'école James Paddon vont pouvoir déjeuner toute la semaine et jusqu'à la reprise de leur cantine sur Paddon, parce qu'on a transféré le mobilier de la cantine de Paddon sur la cantine des Palmiers, qui se retrouve à 50 mètres à vol d'oiseau de Paddon. Le midi, ils vont descendre à pied à la maternelle. La traversée de rue sera sécurisée par des agents communaux et ils vont manger grâce à Nures, qui a été assez réactif. Ils auront une liaison chaude ce midi et demain. Et on repart sur une liaison froide à partir de lundi.
La cantine de l'école primaire devrait être reconstruite. Les services de la mairie espèrent la rouvrir pour la rentrée des vacances d'août.
Toujours au chapitre de la sécurité publique, notez que l'alcool et le port d'armes sont interdits à Belep pour 3 mois. Un arrêté du commissaire délégué en province nord a été pris jusqu'au 12 octobre, compte tenu des tensions existantes sur la commune. La vente d'alcool à emporter, tout comme le transport ou l'introduction d'alcool sur l'île, sont interdits. Le port et le transport d'armes sont également interdits. Et puis à Païta, la vente d'alcool à emporter sera interdite, elle, le 20 juillet 2025, de 6h à minuit, dans les débits de boissons de 3e et 5e classe sur la commune de Païta. Le 20 juillet, je vous le rappelle, est le jour de la fête du bœuf. Graphoprint croit en l'avenir économique de la Nouvelle-Calédonie. L'entreprise située à Normandie a été en partie incendiée en mai 2024, Nicolas Legrand.
Oui, et depuis, ses dirigeants ont non seulement rénové la partie détruite, mais ils ont aussi décidé de poursuivre les projets d'agrandissement. Et ce, malgré les difficultés économiques actuelles et les problématiques d'assurance notamment. Alan Thomas est le gérant de l'entreprise Graphoprint.
C'est un projet qu'on avait depuis 3 ans, qui devait démarrer en mai l'année dernière, qui a été interrompu à cause des émeutes. Ça a démarré mai cette année. Et normalement, tout devait être en route et fini pour la fin d'année, mois de décembre. C'était un projet qui était dans les tuyaux. On s'est posé quand même vraiment bien la question l'année dernière, au mois de septembre-octobre, si on continuait ou pas. On a pris le choix, pas le pari, mais le choix de croire quand même en cette île où on est né, pour relancer. On est obligé hein, de faire quelque chose. Si tout le monde est attentiste, malheureusement, on va tous s'écrouler. Donc, on prend le choix de croire que ça va aller mieux économiquement. On a une défisque locale. Sans ça, c'est un projet qui ne peut pas voir le jour. Hein, parce qu'il y a quand même c'est des très gros investissements pour une entreprise qui est familiale. Hein. C'est difficile quand même de mettre autant d'extensions dans des machines sans avoir une aide locale du gouvernement, en l'occurrence.
Le chantier s'élève à 435 millions de francs pour 500 mètres carrés de dock et a bénéficié de la défiscalisation locale à hauteur de 33%. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, a donc visité le chantier ce matin et il y voit des signaux extrêmement positifs.
Une entreprise qui a partiellement brûlé et qui a fait le choix de reconstruire et qui en plus s'agrandit. Donc c'est important de montrer ce qui marche en Calédonie en ce moment parce qu'il y a des projets qui avancent, il y a des projets qui se font, il y a des bonnes nouvelles et parfois on se concentre vraiment sur les mauvaises nouvelles. On a fait le choix de soutenir cette entreprise via la défiscalisation pour son projet d'agrandissement. Donc c'est important d'être à côté de ceux qui sont en difficulté mais aussi de ceux qui souhaitent développer la Nouvelle-Calédonie. On a l'impression d'avoir un gros moteur qui est déconstruit, qu'on reconstruit au fur et à mesure, mais qui se reconstruit progressivement. Donc c'est important pour nous et ces projets qui avancent parce que il y a des gens qui ont envie de faire redémarrer la Nouvelle-Calédonie et ces gens, ils ont la nécessité d'être valorisés.
Et pour soutenir l'économie, 6 entreprises ont reçu l'agrément pour la défiscalisation locale depuis la mise en place du 18e gouvernement.
Le syndicat des agences de voyage auditionné par l'autorité de la concurrence nationale et par son homologue calédonienne. Les agents de voyage ont entamé une action pour concurrence déloyale contre Air Calédonie International depuis que la compagnie a décidé au 1er janvier 2025 de supprimer la rémunération de 5% qu'elle leur versait jusque-là. Les explications de Vaïa Froger, la présidente du syndicat des agences de voyage de Nouvelle-Calédonie.
On a entamé cette procédure auprès de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, procédure totalement inédite puisqu'on n'avait jamais eu à aller jusqu'à cette étape. Hein. On avait toujours réussi à discuter en bonne intelligence avec notre compagnie aérienne. Et cette procédure a abouti sur un premier rapport, un rapport préliminaire de l'autorité de la concurrence qui a mis en lumière un abus de position dominante et un abus de dépendance économique entre Air Calin et les agences de voyage, puisque tout un chacun peut le constater, plus de 90% des sièges qui rentrent et qui sortent de la Nouvelle-Calédonie sont des sièges Air Calin. Les agences de voyage sont donc tributaires des produits Air Calin pour vendre et gagner leur vie.
La procédure suit donc son cours avec l'autorité de la concurrence pour procéder à une médiation. Et Vaïa Froger insiste sur le rôle crucial des agences de voyage qui apportent un réel service. Elles doivent notamment prendre en compte toutes les modifications et tous les aléas du trafic aérien.
On va différencier deux types de problèmes. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des instructions de la compagnie aérienne Air Calin, minimum 8 fois sur des modifications de programme, sur des changements de vol, sur des changements de jour, c'est-à-dire qu'ils ont passé le Sydney du vendredi au jeudi, par exemple. Et pour tous les billets qui ont été émis en agence de voyage, c'est l'agence de voyage qui doit à nouveau effectuer ce travail de service après-vente, informer le client. Si le client n'est pas content, l'agence doit lui trouver une solution qui lui semble convenable et ensuite réémettre les billets d'avion. Donc cette rémunération de 5%, elle correspond à ce service après-vente aussi. Et ce qu'Air Calin est en train de nous dire, c'est qu'on vous retire les 5% de commission, on vous retire votre rémunération, mais vous allez continuer à faire le travail quand même.
Et on a vu ces derniers jours les problèmes que rencontre la desserte aérienne. Cela crée une défiance à l'égard de la compagnie, relève la présidente du syndicat des agences de voyage, qui attend le résultat de la médiation de l'autorité de la concurrence.
Je pense que la médiation est devenue indispensable. On a des difficultés puisque les points de vue étaient diamétralement opposés. On n'a pas réussi avant le 31 décembre à trouver des solutions ou des terrains d'entente. Je pense qu'on est sur un sujet qui est très passionnel. Pour faire de l'aérien aujourd'hui, il faut être passionné. Compte tenu des difficultés, des réglementations, des difficultés de l'aérien. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à Air Calin. Lorsqu'il y a un voyant qui s'allume, c'est une question de sécurité et la sécurité doit passer avant tout. Ensuite, il y a des sujets à traiter en termes de communication et d'information à la clientèle et aux agences de voyage qui ne sont pas forcément faits dans les meilleures conditions. Mais la compagnie aérienne a raison de faire primer la sécurité surtout.
Les agences de voyage qui ne sont plus que 6 en Nouvelle-Calédonie contre 11 avant le Covid se disent prêtes à travailler en coordination avec ACI, même si elles ont des questions. Elles se demandent notamment pourquoi 7 compagnies aériennes desservent Port Vila, alors qu'il n'y en a qu'une qui desserve Tontouta. Une interview de Vaïa Froger à visionner ou à réécouter sur notre site internet. En bref, notez que l'UNC accueille le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. 2 conventions ont été signés hier entre l'université, la maison de l'étudiant et l'établissement public d'enseignement Michel Rocard. L'UNC met donc à disposition de l'antenne sud du centre de formation un bureau administratif et une salle de formation équipée, tandis que la maison de l'étudiant lui confie une parcelle agricole attenante à la résidence étudiante. Il est 11h41. On se retrouve dans un instant pour voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le management vous intéresse? Alors rejoignez l'IAE de l'Université de la Nouvelle-Calédonie et boostez votre parcours avec notre master MAE, Management et Administration des Entreprises. Formation initiale ou reprise d'études, préparez-vous aux défis du monde des affaires et à l'international avec des intervenants universitaires et des professionnels experts. Candidatez en ligne du 7 au 18 juillet pour rejoindre notre master MAE à la rentrée de septembre. Info pratique sur iae.unc.nc.
Retrouvez l'incontournable retraite au Flambeau de Nouméa ce dimanche 13 juillet.
Changement de lieu cette année pour le départ du défilé. On se donne rendez-vous au Mémorial américain à Port-Moselle dès 18h30 avec la distribution des lampions, puis le défilé qui ira jusqu'à la place des Cocotiers.
Des manèges, jeux gonflables et stands de restauration vous attendront à partir de 18h du côté de la place des Cocotiers et soyez prêts pour le fameux bal populaire qui commencera à 19h15, place de la Marne.
Programme complet de cette retraite au Flambeau sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa ma ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le Nord à l'honneur aujourd'hui sur la place des Cocotiers. Pour les jeudis du centre-ville, plus de 200 exposants sont venus proposer leurs spécialités, robes mission, artisanat, horticulture, mais aussi évidemment fruits et légumes. Les visiteurs ont répondu présents dès l'ouverture pour profiter des animations et faire leurs emplettes. Et ils apprécient l'ambiance conviviale et la richesse des produits proposés.
On est venu voir le marché, les jolies robes de couleur, puis tous les marchands de légumes et puis tous les produits locaux.
C'est très joyeux. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir accès à des producteurs du Nord. Et le marché est très grand. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc c'est chouette de voir les fruits et légumes, les produits locaux. Je pense qu'on va prendre des petites confitures ou du miel si on trouve du miel. Aussi, et des pommes lianes, j'aimerais bien trouver des pommes lianes.
Je suis venu principalement prendre des plants d'igname, des plants d'ananas, patates douces, manioc. Voilà. On n'a pas besoin de se déplacer au Nord, c'est le Nord qui descend nous voir ici. Et c'est bon, c'est sur place pour l'essence.
Je suis venu accompagner mon mari pour chercher des plants, pour replanter ça à la maison, pour éviter de faire les courses aussi. Maman, elle aura une robe, normalement.
Voilà. Et l'un des temps forts de la matinée a été le défilé des couturières. Originaires de plusieurs communes du Nord, elles ont présenté leur création unique faite à la main.
On a présenté des robes et des liquettes de la création Tchaoui de la tribu de Kongouma à la Batou. C'est confectionné par les mamans de la tribu. C'est une association, puis c'est unique. Machine à coudre, tissu, teinture pour confectionner les robes. Chaque femme couturière a leur style pour venir montrer un peu leur travail et leur création et tout.
L'événement se poursuit jusqu'à 19h avec un concert de clôture à prévu à partir de 17h. Et non loin de là, Kéferi, des élèves du lycée Blaise Pascal sortent de leur zone de confort. Une quinzaine de jeunes de terminale STMG se sont prêtés à un exercice de communication en anglais. Ils ont accueilli les touristes d'un bateau de croisière en provenance d'Australie à la gare maritime. Exercice qui vise à pratiquer leurs compétences en marketing dans une langue étrangère et qui n'a pas fait peur à ces jeunes lycéens.
Aujourd'hui, on propose 3 stands. 2 où on fait découvrir des produits locaux, donc avec des gâteaux de chez Donna, du café, des salades tahitiennes. Et un autre stand où on propose des origamis aux enfants avec des jeux de mémoire où on leur fait apprendre le français.
Ça nous apprend à échanger avec les personnes, je pense dans le domaine du commerce, avec la vente, le lien avec les clients et à l'international aussi parce que dans notre spécialité, on apprend aussi à échanger avec les clients en anglais. Moi ça se passe bien, c'est vrai que je galère un petit peu avec l'anglais, mais sinon ça va. Ça nous apprend à bien communiquer et ça nous oblige surtout à communiquer avec les touristes.
Alors pour l'instant ça va, c'est vrai que c'est un peu le rush en ce moment, mais on essaie de se débrouiller comme on peut avec le minimum d'anglais qu'on a.
Et après cette matinée d'apprentissage, les élèves de cette classe de terminale ont pu visiter le bateau de croisière qui a transporté les touristes. Les FANC préparent le défilé militaire du 14 juillet. Hier, 500 hommes des armées de terre, air et mer ont répété sur l'avenue de la Victoire Henri Lafleur, mais aussi les pompiers, les policiers et les douaniers qui défileront également. Défilé coordonné par le colonel Puchois, chef d'état-major interarmée des FANC.
Ça permet de rassembler l'ensemble des troupes, de faire les marquages pour s'assurer que les espacements sont bien respectés, que tout le monde ne sera pas surpris par les ordres qui seront donnés le jour J. Et puis après, donc un entraînement au défilé, s'assurer que tout le monde défilera le plus fier et le plus proprement possible pour cette cérémonie. Alors l'ensemble des corps sont représentés, hein, donc des forces armées, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, toutes les corps de soutien, les directions et les services, la gendarmerie, la police, le RSMA, les douanes et les pompiers. Mais on innove chaque cérémonie. Donc là, entre la cérémonie proprement dite protocolaire avec des remises de médailles et le temps de mise en place pour le défilé, il y aura des mises à l'honneur de la jeunesse, de tous ceux qui ont participé par différentes façons, que ce soit des réservistes citoyens, des classes de défense qui seront mises à l'honneur. Donc on aura ce petit espace au milieu de cette belle cérémonie.
Après ce défilé, un forum des forces de sécurité aura lieu sur le quai Ferry à partir de 10h. Le bâtiment de soutien d'Entrecasteaux sera à quai et le public pourra monter à bord de 10h30 à 15h30 et rencontrer les membres d'équipage. Il y avait de l'ambiance hier soir dans tous les recoins du conservatoire conservatoire de musique et des arts de Nouvelle-Calédonie hier soir, avec une belle énergie portée par les artistes et les visiteurs, Axel de France.
Pour sa toute première nuit du conservatoire, l'établissement a ouvert ses portes pour une soirée immersive. De 18h à 21h, le public a découvert l'envers du décor à travers des démonstrations de danse, des concerts et des performances musicales. Tous les espaces du site étaient animés dans une ambiance au cœur avec les artistes, partagés par familles, curieux et passionnés.
Je suis venue voir mes deux petites filles, mais même trois petites filles qui font partie de l'école et qui jouent différents instruments et qui vont participer à la prestation. Donc je viens voir en tant que grand-mère. J'adore, je trouve ça très superbe, c'est une belle prestation, je suis très heureuse d'être là.
C'est vraiment un plaisir de les voir jouer et puis c'est très bonne ambiance, il y a une petite buvette, c'est sympa.
Eh bien, on est venu admirer, on est venu écouter et on est venu faire plaisir. C'est agréable, je faisais les spectacles quand j'avais mes enfants, j'ai plus mes enfants donc je viens voir les enfants des autres et je suis très content de ça.
Un pari réussi pour le conservatoire. Près d'une centaine de personnes ont répondu présent à cette soirée, placée sous le signe de la découverte artistique.
Et avant de passer à l'actualité dans la région, cette information qui vient de nous parvenir, la gendarmerie est intervenue hier au pont d'Apogoti. Un individu a lancé un engin incendiaire qui peut s'apparenter à un cocktail Molotov au niveau de la Save Express. La bouteille a explosé dans un mur. Les enquêteurs ne savent pas encore si les automobilistes étaient visés. À l'arrivée des gendarmes, l'individu avait déjà quitté les lieux. L'actualité dans la région marquée par un renforcement de la coopération entre les Tonga et Fidji. C'est ce qui ressort de la visite officielle que vient d'effectuer à Suva le roi des Tonga, Tupusis, à l'invitation du président fidjien, la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les discussions ont notamment porté sur la nécessité de militer en faveur d'une coopération régionale accrue. Le Pacifique, a déclaré le président fidjien, est confronté à une polycrise qui risque de compromettre des décennies de progrès en matière de développement. Plus que jamais, a-t-il ajouté, le régionalisme et la solidarité doivent guider notre réponse. Tupusis a souligné quant à lui le potentiel croissant de collaboration renforcée entre nos deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l'éducation. Il a enfin noté l'engagement des Tonga et des îles Fidji en faveur de l'unité dans le Pacifique. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
11h49, une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Le marché de Boulari vous présente ses nouveaux horaires d'ouverture. Retrouvez-nous du jeudi au samedi de 6h30 à 13h30 et le dimanche de 6h à midi. Avec un tarif exposant journalier de 700 francs à 2100 francs par jour, nous accueillons et accompagnons également tout exposant désireux de venir participer à notre marché municipal. Pour toute information, appelez le 96 07 09.
À l'occasion de la fête nationale, la ville de Païta vous convie tous. Au programme, le 13 juillet à 10h, commémoration au monument aux morts, rendez-vous à l'arène du Sud dès 13h30 pour des animations gratuites pour grands et petits, 17h30, distribution de lampions, 18h, retraite aux flambeaux. Restauration sur place, venez nombreux pour cette journée de fête.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Le Rassemblement national dénonce un acharnement judiciaire. Les locaux du parti ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour financement illicite de campagne. La brigade financière se penche sur des prêts faits par des particuliers pour plusieurs campagnes électorales. C'est donc sans conteste de l'acharnement judiciaire, estime le président du RN, Jordan Bardella.
L'intégralité des comptes de campagne de mon mouvement et de ses candidats ont été validés lors des élections qui sont précisément concernées par ces griefs. Nous n'avons non seulement rien à nous reprocher, mais la Commission nationale des comptes de campagne dispose déjà des différents justificatifs. Donc je veux dire à nos électeurs et je veux dire aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir que tout sera mis en œuvre pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Le harcèlement et l'acharnement judiciaire, politique et financier que subit le Rassemblement national est inédit sous la Ve République et aucun autre mouvement politique n'a subi un acharnement aussi dur et aussi violent.
Et toujours à propos du RN, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la demande de suspension des mesures provisoires dans le jugement prononcé à l'encontre de Marine Le Pen à l'issue du procès des emplois fictifs des attachés parlementaires européens du Front National. La demande visait surtout l'exécution provisoire d'inéligibilité. En attendant le procès en appel, Marine Le Pen ne peut donc pour l'instant toujours pas se présenter aux prochaines élections et notamment aux présidentielles. Et puis notez que la loi sur l'allongement de la durée de rétention administrative a été définitivement adoptée après un dernier vote du Sénat. Le séjour dans ces centres pour les clandestins jugés les plus dangereux peut être désormais au maximum de 210 jours contre 90 jours auparavant en attendant leur expulsion. L'islamo-gauchisme n'est pas présent de façon structurée et visible dans les universités. Cette phrase du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, fait beaucoup réagir. Certains, au sein même du gouvernement, lui reprochent de nier une réalité évidente. Et de nombreuses critiques sont émises par la droite. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
Les Républicains ne partagent pas du tout les propos de leur collègue Philippe Baptiste, car depuis des années, la droite a fait de la lutte contre l'islamo-gauchisme une de ses priorités. Othmane Nasrou, fidèle de Bruno Retailleau, demande même au ministre de l'Enseignement supérieur de revenir sur ses propos. Sur Europe 1, la ministre en charge de l'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecoq, elle se désolidarise de son collègue et rappelle la ligne du gouvernement.
On ne doit pas tolérer d'appel à la haine, on ne doit pas tolérer l'antisémitisme que l'on peut rencontrer dans certaines universités, on ne doit pas tolérer d'apologie du terrorisme ou de mouvements terroristes. Et là-dessus, le gouvernement a une ligne qui est très claire et qui est très ferme.
Et en interne, ce déni de l'islamo-gauchisme dérange. Nous ne partageons pas sa position. Il a donné son avis personnel, assure un poids lourd du gouvernement à Europe 1. De son côté, Philippe Baptiste assume et maintient ses propos dans le Figaro. Une énième polémique qui illustre à nouveau les divisions entre l'aile gauche de la Macronie, incarnée par Elisabeth Borne, et le reste du gouvernement.
Un début de soulagement pour les habitants des quartiers nord de Marseille. L'incendie qui sévissait depuis plus de 24 heures est désormais fixé. 750 hectares ont été brûlés, une centaine de blessés légers recensés et 10 habitations ont été détruites. Les habitants des quartiers menacés ont pu regagner leur domicile.
Je suis venu pour m'attendre, récupérer un peu des affaires. Je vois que la maison n'est pas trop touchée, mais le jardin énormément. Le garage, c'est pas joli à voir.
C'est des cendres, et avec le vent, ça risque de reprendre. On a vécu le plus dur. Tant qu'il n'y a pas de victimes.
Il y a plusieurs maisons qui ont brûlé là. Il y avait beaucoup de fumée. On n'arrivait plus à respirer. T'es obligé de partir.
La maison, j'ai le voisin à côté, il a été touché. Moi, ça a été épargné, mais on est passé à deux doigts. C'est pas normal, on est en France, 5e puissance mondiale, et on a 12 canadaires pour éteindre les feux l'été. Il y a un gros problème là.
Notez que dans l'Aude, le feu qui sévissait depuis près d'une semaine est lui aussi fixé. 2500 hectares ont été ravagés par les flammes. 11h54, la dernière pause de ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et on se retrouve ensuite pour les Jeudis de l'économie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Chez Decathlon, le bleu est plus qu'une couleur. C'est la promesse du meilleur rapport qualité-prix. Du textile aux équipements, découvrez notre large sélection de produits bleus pour tous les sports. Decathlon, le meilleur du sport au meilleur prix.
Le Salon Toyota 2025, du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs et profitez également d'un déstockage sur les véhicules d'occasion. Venez découvrir la gamme Toyota et les dernières nouveautés. Alors rendez-vous du 11 au 13 juillet à la Maison des Artisans. Et le Salon Toyota, c'est aussi chez Nord Motors Kone. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport, on retrouve Jean-François Baudin juste après ceci.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et c'est déjà l'heure du bilan. Après 10 jours d'épreuve, les mini-jeux du Pacifique se sont refermés hier soir. C'est donc l'heure du bilan et il est positif pour la délégation calédonienne, Léo Fichou.
Oui, les représentants du CTOS présents à Palau depuis le début de la compétition sont satisfaits des résultats, des podiums et des médailles décrochées par les Calédoniens. 34 médailles au total, 7 en or, 11 en argent et 16 en bronze. Les Cagous terminent 7e d'un classement général largement dominé par Tahiti avec 142 médailles. Les Tahitiens qui, à la différence des Calédoniens, étaient eux au complet. La délégation calédonienne ne comptait que 31 athlètes, faute de budget suite aux émeutes de 2024. Mais 34 médailles pour 31 athlètes, c'est un résultat satisfaisant, nous a dit Christophe Dabin, président du CTOS.
Au niveau sportif, en allant avec une délégation de 31 athlètes, il est clair qu'on ne pouvait pas prétendre à avoir des résultats extrêmement importants, en sachant que les autres délégations étaient venues en nombre, avec en plus des athlètes extrêmement performants. On s'est quand même rendu compte que sur certaines disciplines, nous avions les meilleurs éléments des équipes des autres pays, et particulièrement pour Tahiti, pour Fidji, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont vraiment venus avec des délégations très fortes. Donc on peut dire que la concurrence était présente. La Nouvelle-Calédonie s'en sort très bien.
Vous l'aurez compris, à peine les mini-jeux de Palau terminés, Christophe Dabin est déjà tourné vers les grands jeux de Tahiti, ce sera en 2027.
Si l'on veut gagner à Tahiti en 2027, il va falloir que l'on trouve des solutions et qu'on puisse travailler sur des pistes particulières, surtout des pistes de financement, pour que l'on puisse avoir, durant les deux années qui nous restent, les moyens de permettre à nos différentes disciplines de se préparer dans les meilleures conditions pour Tahiti, parce que Tahiti a montré qu'ils sont déjà, eux, dans cette optique de 2027. Et de la même manière, il faudra aussi faire un appel à nos athlètes hors territoire pour que nos athlètes puissent venir nous aider. Je crois que là, pour ces Jeux de Tahiti, on va avoir besoin de tout le monde et on va surtout avoir besoin d'avoir une équipe qui soit la plus complète possible et que, si nécessaire, on soit présent dans toutes les disciplines qui seront présentes en 2027.
On prend déjà rendez-vous pour 2027. Les Jeux du Pacifique à Tahiti auront lieu du 24 juillet au 8 août.
Les mini-Jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Kone et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Et les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi l'objet de notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
La voici cette question. Avec 34 médailles, dont 7 en or, pour une délégation restreinte de 31 athlètes, avez-vous le sentiment que les Cagous ont réussi leur mini-jeu à Palau? Si vous pensez qu'ils les ont réussis, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à notre question d'hier, 78% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'hôtel Wadrabet de Lifou, dont l'ouverture est sans cesse repoussée, ne parviendra jamais à accueillir des clients. Ils sont 22% à penser à l'inverse, que l'hôtel finira par ouvrir un jour. Revenons au sport pour parler football. Léo, le Paris Saint-Germain est en effet en finale de la Coupe du Monde des clubs après une victoire écrasante ce matin sur le Real Madrid.
Oui, victoire 4-0. On annonçait pourtant une finale avant l'heure, un duel au sommet, un choc entre deux des meilleures équipes du monde. Finalement, la rencontre a tourné à la correction. Les Parisiens n'ont laissé aucune chance au Real Madrid de Kylian Mbappé. Écoutez Luis Enrique, l'entraîneur du PSG.
Nous sommes une équipe qui est dominante, une équipe qui aime avoir la balle, et c'est difficile pour les adversaires de faire la même chose. Et je crois qu'on a mérité cette victoire.
Les Parisiens affronteront Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Anglais tombeurs des Brésiliens de Fluminense 2-0 hier. La finale aura lieu lundi à 6h heure de Nouméa. Objectif pour le PSG, décrocher un 5e titre cette saison.
Et toujours en football, notez que les féminines de l'équipe de France ont disputé ce matin la deuxième journée des phases de poule de l'Euro. Les Bleus se sont imposés 4-1 sur le Pays de Galles. La France est donc seule en tête avec 2 victoires en 2 matchs. L'Angleterre et le Pays de Galles ont 3 points chacun. Les Pays-Bas, futurs adversaires des tricolores, sont dernières de leur groupe avec 0 point.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Le Tour de France avec Remco Evenepoel qui a dominé le contre-la-montre cette nuit, mais c'est Tadej Pogacar qui a frappé un grand coup.
Le Slovène a terminé à seulement 16 secondes du Belge et réalise le triplé puisqu'il s'empare du maillot jaune de leader avec 42 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, 59 secondes sur le Français Kevin Vauclin et 1 minute 13 sur son principal concurrent Jonas Vingegaard. Mais ce n'est pas tout, en plus du classement général, Tadej Pogacar est également en tête du classement des grimpeurs et des sprinteurs. Alors sur cette cinquième étape, les Français ont également brillé. Bruno Amirail termine quatrième, Kevin Vauclin cinquième. Il monte donc, comme je le disais, sur la troisième marche du podium. On l'écoute.
J'avais un peu mal aux jambes, mais le corps, le cœur, les poumons, c'était encore
sous réserve.
Oh, c'est incroyable, c'est sous ses supporters, tout le soutien. Je suis aux anges, vraiment, je suis aux anges. Merci à tous, vraiment.
Ce soir, sixième étape du Tour de France, dite accidentée, 201,5 km entre Bayeux et Vire-Normandie. Six cols de quatrième et troisième catégorie au menu pour les 179 coureurs. Départ de l'étape, 21h45 heure de Nouméa.
Et puis on termine avec du tennis et les demi-finales de Wimbledon qui seront disputées ce soir. Un choc chez les hommes, d'abord entre le numéro 1 mondial Yannick Sinner et Novak Djokovic, septuple vainqueur du tournoi londonien. Carlos Alcaraz sera lui opposé à Taylor Fritz. Chez les dames, Arina Sabalenka, la numéro 1 mondiale, elle affrontera Amanda Anisimova et Iga Swiatek jouera contre Belinda Bencic.